Quand tout se libère. Ce matin-là fut étrange. Adèle et Gauvain n'étaient pas présents à table. La vapeur d'eau qui s'échappait des tasses se perdait dans le silence ambiant. Le visage chiffonné de Gaëlle trahissait sa mauvaise nuit. Édouard s'était écroulé du sommeil du juste. Raymond ne dirait rien du sien. Il dormait par-ci par-là, de nuit, de jour, quand le corps réclamait son dû. Un grand n'importe quoi difficile à partager. Il en évoqua un autre.
Gauvain est venu prendre un café au lait avec une tartine. Il a câliné Nimbus, a joué avec Vénus, et il est reparti s'enfermer dans l'atelier. Je crois qu'il n'a pas beaucoup dormi, mais il s'est quand même mis sous la couverture. Elle était posée bredi-breda sur le matelas. J'ai jeté un œil en passant.
Qu'est-ce qui a pris à Adèle ? Demanda Gaëlle, incrédule depuis la veille. « J'espère le découvrir », lui répondit Édouard en se levant pour préparer un plateau de petit déjeuner. Mais lui aussi un yaourt sans sucre. Il marcha rapidement sous la petite pluie fine. Raymond aurait parlé de brouée, dans son langage si particulier fait d'argot, de mots anciens et d'expressions que l'on aurait cru inventer par lui-même. Une petite pluie courte, comme il en tombait parfois sur Brocéliande, et qui donnait un nouvel éclat à la forêt, la brillance d'un sirop de sucre sur une tarte aux pommes. Si un rayon de soleil suivait, l'ambiance scintillante devenait féerique. Il posa le plateau au sol et frappa. Un imperceptible oui réussit à franchir la cloison. Il ouvrit la porte en grand avant de se saisir du petit déjeuner. La jeune femme était méconnaissable. Une boursouflure sur la joue autour de trois points de suture, entourée d'une large égratignure rouge vif, des cernes profonds et sombres, des yeux sans voix. Il posa le plateau sur le lit et approcha une chaise pour s'y installer. « Comment tu te sens ?»«
J'ai mal. »«
Tu vas pouvoir prendre des antalgiques avec ton café. »«
Tu veux que je te pose des questions ou tu préfères me raconter ?»«
Tu en as sûrement. Pose-les-moi. » »«
Ce n'était pas le premier, je suppose. »«
Non. »«
Combien ?»«
C'était le quatrième. »
Nom de Dieu! C'est un miracle qu'aucun n'ait porté plainte.
Pourquoi?
Pour les faire payer.
Leur faire payer quoi?
Leur infidélité.
Mais en quoi ça te regarde, Adèle?
Les hommes qui se foutent de leurs femmes, ça concerne toutes les femmes.
Elle se tut. Elle fulminait et à la fois sentait monter en elle ce chagrin terrible en pensant à sa mère. Elle n'avait jamais prévu de le raconter à quiconque. Et pourtant, elle avait conscience, en cet instant précis, avec la joue qui tiraillait et la jambe fracturée, qu'elle devait cesser le combat. Du moins, ne pas le mener à n'importe quel prix. Édouard lui servit un verre d'eau et expulsa un cachet du blister pour le lui tendre.
« Tu sais que Gauvain est rentré très perturbé plusieurs soirs à cause de toi ?»«
Je ne savais pas. Hier, il a sauvé cet homme d'une noyade certaine. » Imagine ce qu'il a ressenti de te voir comme une furie avec un couteau dans la main prête à mutiler ce pauvre type qui n'avait rien demandé à personne. Quelle violence! Tu sais pourtant qu'il est sensible.
Je te dis que je ne savais pas qu'il me suivait.
Hormis le problème d'avoir choqué Gauvain, tu ne peux pas faire justice toute seule. Une justice que tu décides toi-même. Elle ne répondit pas. Vidée de ses forces la veille au soir, elle mangeait désormais avec appétit. Édouard approcha une chaise du lit et s'y assit, afin d'être proche pour cueillir les confidences sans les abîmer. Cherchait à comprendre l'origine du mal, la raison primitive, ce qui avait inoculé cette folie en elle. La jeune femme se cachait derrière sa tasse de café, acculée dans un coin de la cage. Il lui coûtait de raconter, d'expliquer ce qui s'était passé, de se répandre en vomissures de haine, mais qui d'autre pourrait l'écouter ? Cet homme, dont elle retrouvait l'odeur agréable, avait pris soin d'elle comme un père de sa fille. Adèle n'aurait peut-être jamais d'autre chance de parler, elle en avait conscience.
Quelqu'un t'a fait du mal?
Mon père.
Et il en a fait à ma mère. Je suis parti pour me protéger en la laissant derrière moi. J'ai coupé les ponts.
Il y a longtemps?
Un peu plus d'un an.
Voilà un peu plus d'un an que ta mère est sans nouvelles de toi.
Oui.
Tu imagines sa peine?
Je ne voulais pas qu'il me retrouve.
Que s'est-il passé ?
Effluve ami, bout de l'impasse atteint, impossibilité de fuir.
Adèle prit une grande inspiration et si aucun son ne sortit à la première tentative, elle réussit à la seconde.
Édouard l'écouta sans l'interrompre, sans lui prendre la main non plus. Elle n'était pas ce genre de femme pour qui le contact masculin réconforte.
Et il ignorait qu'une odeur le pouvait.
Ainsi apprit-il l'origine de cette rage et de cette volonté de vengeance.
J'ai toujours connu ma mère soumise à mon père. Elle obéit, elle exécute, mais elle n'en retire aucune joie. Elle s'est laissée faire toute sa vie, et moi j'ai décidé du contraire.
On reproduit ou on se rebelle, non ?
Je me suis quand même pris des mains aux fesses pendant le service, ils sont restaurateurs. Je n'étais même pas majeur. Je répondais, je giflais les clients, et mon père détestait ça. Il me faisait passer pour une folle, juste pour ne pas perdre sa clientèle. Je faisais des études en parallèle qui me donnaient des perspectives de fuite. Quand j'ai avoué à mes parents que j'étais lesbienne, mon père est devenu fou. J'aurais dû partir à ce moment-là.
Adèle avait beau s'imaginer en dehors de son corps pour décrire la scène, la blessure d'effraction revenait, accompagnée de la rage.
Édouard lui laissait le temps. Il voyait bien cette lutte intérieure. Il l'avait déjà expérimentée pour d'autres raisons, à moindre intensité.
Quoiqu'aucune peine ne soit soumise à un possible classement d'échelle.
Un jour, mon père m'a demandé d'aller refaire une chambre à l'étage pour un client qui la voulait tout de suite. Quand je suis entré, la porte s'est refermée et il y avait deux habitués du restaurant qui m'attendaient, un jeune et un plus vieux. Ils ont commencé à essayer de me toucher les seins, les fesses, je me suis débattu. Le vieux m'a ceinturé les bras et le jeune a arraché les boutons de mon décolleté. Il a soulevé ma jupe pour arracher ma culotte. Je lui filais des coups de pied et plus je lui en filais, plus il s'énervait. L'autre me tenait trop fort, alors il a réussi à fourrer ses doigts au fond de moi avant que je lui donne un coup de pied dans le menton. Il s'est reculé et a commencé à défaire la ceinture de son pantalon, en me disant que mon père leur avait dit de me montrer ce que c'était qu'un homme. J'ai senti quelque chose monter en moi, la puissance d'un fauve. J'ai hurlé, mordu le vieux qui me tenait, donné un coup de poing à l'autre et j'ai réussi à sortir de la chambre. Mon père attendait dans le couloir, le salaud.
Édouard s'étonna qu'elle n'ait pas porté plainte. Son corps portait les stigmates de la lutte. Mais elle avait peur que son père s'en prenne à sa mère, en représailles. Qu'il s'en prenne à elle également.
Elle ferma donc tous ses comptes, utilisa son deuxième prénom pour en ouvrir un ailleurs. Un peu de charme devant le banquier avait suffi, en minaudant un caprice de goût pour ce premier prénom. Résilia sa ligne téléphonique et vint se cacher dans la forêt.
« Ta mère a sûrement besoin d'aide, non ?»«
Moi aussi j'en avais besoin, bordel. »«
Tu lui en veux ?»
À elle, non. Je la plains. Je l'ai toujours connue triste, sauf quand elle coud.
Elle doit se faire un sang d'encre. La disparition de sa propre fille. Elle peut tout imaginer, te croire morte dans un talus ou à la merci d'un réseau de prostitution.
Elle ne pourra pas ôter ces images de sa tête. Tu ne peux pas lui infliger ça. Appelle-la pour la rassurer.
Édouard sentit ses entrailles se nouer. Il pensa à sa fille. Sa Pauline joyeuse et souriante à qui il n'était jamais rien arrivé de grave. Un tel scénario de disparition lui serait insupportable. Il deviendrait fou de peur et de peine.
Et si mon père me retrouve ?
Appelle avec mon numéro, au moins pour lui dire que tu es vivante et que tu vas bien. Il ne te retrouvera pas.
Je vais y réfléchir.
Il n'y a rien à réfléchir. Fais-le. Je te laisse mon téléphone, je le récupérerai tout à l'heure.
Tu vas me dénoncer ?
À qui ? Aux flics ? Tu devrais plutôt aller les voir pour dénoncer ton père et ces deux types qui t'ont fait du mal et qui vont peut-être recommencer avec une autre.
Édouard posa son portable sur la table de chevet et reprit le plateau. Il était en colère contre ces salauds qui agissent en toute impunité, qui se croient tout permis. Il était en colère contre Adèle, d'avoir répondu à la violence par la violence en se trompant de cible. Elle ne recommencerait pas, du moins l'espérait-il.
Dans la cour, il croisa un Platon agité. Le chat marchait en suivant la trajectoire du signe de l'infini, à tel point qu'un 8 d'herbe tassée commençait à se dessiner dans la pelouse. Il recommençait encore et encore en miaulant comme s'il chuchotait. On eût dit qu'il se parlait à lui-même. Si d'aucuns affirment que les chats sentent quand les humains vont mal, l'inverse fut soudain concevable. Édouard ne l'avait jamais vu ainsi préoccupé. Platon ne lui accorda pas la moindre attention. Par contre, quand il le vit se diriger vers la maison avec son plateau, l'animal fila vers la forêt. Le plateau vide entre ses mains, Édouard céda de son coude pour appuyer sur la clenche et entrer dans la maison. La journée ne faisait que commencer et une deuxième femme montrait sa peine sous ce toit. Un automate tournait en boucle sur la table. Gaëlle le regardait et des larmes coulaient. Elle ne détacha pas ses yeux de l'objet quand il s'assit à côté d'elle, ni quand il posa une main solide sur son épaule devenue frêle. Il prit le temps d'observer le mouvement, d'essayer de comprendre ce que représentait l'objet. Le défi technique de Gauvin était gagné. Il avait réussi au sacrifice de sa nuit. Le maître fut impressionné par l'élève. Une telle qualité pour une deuxième création confirmait l'esprit vif, la logique aiguisée, l'intelligence exceptionnelle. Par ailleurs, il avait soigné l'habillage et l'objet était beau. Quelle que fût sa beauté, l'automate faisait pleurer Gaël. Un escalier, un roi de jeu d'échecs qui le descend, puis réapparaît à l'étage, où il rencontre le fou avant de redescendre. En bas, la reine qui fait le tour d'une porte ouverte, un cavalier posé dehors qui ne bouge pas.
Tu m'expliques ?
Je comprends tout et je ne comprends rien à la fois.
Dis-moi le tout, dis-moi le rien.
Il représente l'escalier de notre maison, là où mon mari s'est tué. Je rentrais du travail avec un collègue qui me raccompagnait. Quand j'ai ouvert la porte, son corps tourneboulait dans les marches comme une marionnette désarticulée. Il s'est tué sur le coup, on n'a rien pu faire. Je suis la reine. Il l'a décorée du même motif que la robe que j'avais enfilée ce jour-là. Et le fou, c'est Gauvin. Il porte cette couleur bleue d'un pull qu'il enfilait tout le temps. Il a même reproduit le tableau qui décorait le mur de l'escalier. Il n'y a aucun doute.
C'était un accident, non ? Il a été témoin de la scène. N'est-ce pas une façon de chasser ses démons ?
Regarde bien, quand le roi remonte à l'étage.
L'automate poursuivait ses cycles devant eux. Trois moteurs différents l'animaient. Un pour le fou à l'étage, un autre pour la reine au rez-de-chaussée, le troisième, plus complexe à monter, pour le roi qui dévalait l'escalier. Ils attendaient patiemment que la pièce d'échec remonte vers l'étage en passant sous la structure. Une prouesse technique, d'après Édouard, qui se demanda s'il aurait été capable de l'imaginer lui-même.
« Regarde là, » dit-elle en pointant l'automate du doigt. « Il est au bord de l'escalier, et le fou vient par derrière comme s'il le poussait. »
Il avait 5 ans. Il n'a pas pu pousser son père dans l'escalier. Gaël, c'est un accident.
Regarde bien le mouvement. Et s'il essayait de nous dire quelque chose ?
Où est-il ?
Il doit être à la clairière. Sa sangle n'est plus là.
Édouard tourna l'interrupteur de l'automate et l'emporta dans la chambre de Gauvin pour le soustraire à la vue. À son retour auprès de Gaël, il l'étreignit en lui suggérant d'aller gratter du bois dans son atelier pendant qu'il serait à la clairière. Elle semblait avoir perdu toutes ses forces et il éprouva de la peine à la voir ainsi. Une femme solide, battante, indépendante, devenue soudain petite souris vulnérable. Du reste, en marchant vers la forêt, elle dut se rendre à l'évidence. Il était épuisé lui aussi. Les événements s'enchaînaient sans lui laisser aucun répit. Un écureuil disparut, à une dizaine de mètres devant lui. Il pourrait un peu se calmer, le grand changement, oui. Édouard était venu pour trouver des réponses à ses problématiques et il participait à résoudre toutes celles des autres. Une mélancolie soudaine l'envahit, un besoin intense de se sentir contenu par des bras qui rassurent. Il lui revint en mémoire ces moments où, petit, fiévreux au fond de son lit, sa mère prenait soin de lui avec la douceur maternelle qui soigne. Plus de mère, plus de père, plus de femme. Élise se trouvait loin. Il fallait désormais choisir le moment propice pour éprouver ce besoin-là. La distance pouvait vite devenir cruelle. Il s'arrêta à mi-parcours du doux chemin, là où un chêne ancien, un peu en retrait, se ratatinait sur son tronc trapu et noueux. Couvert de bryophytes, il donnait l'image d'un vieux sage somnolent que plus personne n'ose déranger. Édouard ne comprit pas ce qui le poussa à se diriger vers lui et à l'enlacer. La joue collée à la mousse, ses bras n'en faisaient pas le tour.
Il avait calé ses pieds de part et d'autre de la base du tronc et essayait de mettre en contact la plus grande surface de son corps avec l'écorce. Il ferma les yeux et communia, en se fichant bien de ce qu'on pouvait penser de lui si d'aventure un promeneur passait aux alentours. Il n'avait besoin que d'échanger sa fatigue contre de l'énergie. Il ne pensa à rien d'autre qu'au chêne, essaya de se fondre dans l'écorce. Il y trouva plus de force qu'il ne pouvait en espérer. Il y avait contre ce tronc une sorte de fluide invisible qui semblait venir de la terre et du ciel à la fois. La force du sol dans lequel il était ancré, couplée à la légèreté des plus petites branches de la canopée qui dansaient avec le vent. Et une sève, circulante, irradiante, qui prenait les pensées complexes et sombres d'Édouard pour aller les exposer à la lumière des dernières feuilles en sursis et les lui rendre lavées et sucrées d'une photosynthèse sans jugement. Cette étape improvisée lui redonna force et courage pour partir à l'assaut des mystères de Gauvin. Le garçon avait installé la slackline à une hauteur moyenne sans que cela représentât un réel danger. Il marchait, accélérait, se tournait, s'asseyait, se relevait sous les yeux du chat posté sur sa tour de contrôle. Édouard trouva l'animal apaisé et le garçon calme. Il décida d'aller s'asseoir contre la roche de schiste et d'attendre sans bouger que le moineau s'approche de lui. Cela mit une heure. Pas une seule fois Gauvin ne le regarda. Il savait qu'on venait lui parler de l'automate. Il l'avait souhaité. La clairière le lui avait suggéré. Trop tard pour revenir en arrière. Il pouvait au moins s'accorder du temps avant d'affronter. La sangle lui faisait du bien. Le baignait de douces hormones. Il serait bientôt prêt. Quand enfin il sauta à côté d'Édouard, celui-ci lui parla sans détour. « Ta maman pleure à la maison. Elle a peur de comprendre des choses. » Le vent peinait à se faufiler entre eux tant le garçon s'était assis à proximité. Il fixait des yeux le tilleul aux deux troncs. Ce qu'il avait redouté jusque-là arrivait. Le grand jour, l'épreuve. La libération. Il fut d'abord trop petit pour parler, puis il eut trop peur de tout avouer. Enfin, il expérimenta le confortable silence en pensant que tout s'estomperait avec le temps. Rien ne s'effaça. Au contraire, cette violence qu'il avait crue normale lui devenait insupportable. Il fallait qu'il parle de ce qui s'était produit, qu'il se débarrasse de ce fardeau d'enfant qui pesait de plus en plus lourd sur ses épaules de plus en plus larges. Et qu'il parle tout court. Savoir crier aurait évité à l'homme de tomber dans le lac. Le mutisme devenait prison, après avoir été refuge. Tu sais, quand j'avais ton âge, j'ai utilisé un automate pour dire la chose la plus difficile à exprimer à une fille. J'ai fabriqué un petit clown avec un cœur qui tourne autour de lui pour lui avouer que je l'aimais. Les automates sont bien pratiques. Ils parlent à notre place, non ? Gauvin acquiesça. Il était prêt. Même si la parole manquait toujours et que l'aveu n'était pas de l'ordre de l'amour comme le clown. Là, il était question de fou, de roi, de mort. Il attendit qu'Édouard, qui réfléchissait, prit l'initiative du dialogue. « Bon, alors je vais te poser des questions fermées et tu vas répondre par oui ou par non. D'accord ? Oui. Tu as peur ? Oui. Tu me fais confiance ? Oui. Ton automate représente une scène qui s'est réellement passée ? Oui. Le roi, c'est ton père ? Oui. Et toi, tu es le fou ? Et ta maman, la reine ? Oui, oui. Le cavalier, c'est un voisin ? Non. Un collègue de ta maman ? Oui. Ton papa était en colère ? Oui. Contre toi ? Non. Contre ta maman ? Non. Contre le monsieur ? Oui. Gauvin attendait chaque question patiemment, comme s'il les connaissait à l'avance, comme si elles avaient toujours existé et qu'il ne faisait que les repousser depuis 10 ans, telles les particules d'air devant le nez d'un avion, qui finissent par exploser de s'être accumulés. Gauvin était en train de franchir le mur du son dans un ciel immense et bleu de vérité. On aurait pu croire que son calme précédait la tempête Il n'en était que le résultat.
Il est tombé dans l'escalier?
Oui.
Il avait bu?
Non.
Il est tombé tout seul?
Non.
Édouard hésita un instant. Il ne pouvait se résoudre à poser la question suivante. Celle-ci lui semblait si invraisemblable. Il le devait cependant. Pour lever les doutes de Gaël, pour libérer Gauvain, pour comprendre.
L'as-tu poussé?
La respiration du garçon s'accéléra. Contenir la vague qui montait, la casser avant qu'elle ne vienne le frapper. Il se sentait minuscule face à la tempête qui grondait. Il hésita lui aussi, regarda Édouard, puis l'arbre.
Oui.
Volontairement?
Non.
Alors c'était un accident?
Non.